Podcast. La première, du lundi au vendredi, 11h midi. Question clé avec Véronique Thiberghien.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouvel outil pour faciliter le langage chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Il vise la stimulation des domaines langagiers qui sont encore préservés chez le patient. Mais chose inédite, il permet aussi aux aidants proches de pouvoir y travailler eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour rester en communication avec les personnes atteintes d'Alzheimer. On vous parlera également de l'utilité aujourd'hui en Belgique de faire un doctorat. Quels sont les débouchés? Quelle est la plus-value? Aujourd'hui, le nombre d'étudiants qui s'inscrivent pour un doctorat est en augmentation, alors que parfois, eh bien, le débouché auquel on pense traditionnellement, à savoir l'enseignement, lui, n'augmente pas véritablement. Eh bien, les débouchés, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine. Mais faire un doctorat, il faut pouvoir s'accrocher, on le verra aussi.
La première, du lundi au vendredi, 11h midi. Question clé, avec Véronique Thiberghien.
La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative. Vous le savez, elle est incurable. C'est une maladie du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. Elle fut initialement décrite par le médecin allemand Alois Alzheimer. Nous sommes à l'époque en 1906. Dans le monde, le nombre de cas de malades d'Alzheimer est passé de 11 millions en 1980 à 25 millions en 2004. Il est estimé aujourd'hui à plus de 35 millions. Et ces personnes qui vivront dans le monde avec la maladie d'Alzheimer, ce nombre est estimé à 65 millions en 2030. À l'échelle mondiale, la maladie d'Alzheimer est donc la troisième cause d'invalidité pour les plus de 60 ans. En Belgique, c'est entre 130 et 160 000 personnes qui sont diagnostiquées. Alors devant l'ampleur de la maladie, la recherche se multiplie pour mieux comprendre les mécanismes, les différentes formes. Et en Belgique, en 2014, pas moins de 20 études différentes étaient en cours. Malgré l'intensité de ces recherches, nous ne sommes pas encore en mesure, évidemment, de pouvoir prévenir ou même de guérir de cette maladie. Mais c'est du côté des outils et des aides aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer que les choses se sont le mieux développées. Et en la matière, la Belgique n'est pas du tout en reste. Pour preuve, ce nouvel outil à disposition des malades, mais aussi, et c'est inédit, pour les aidants proches, ça s'appelle Logatome, et pour en parler, je reçois le neuropsychologue Laurent Lefebvre. Merci d'être venu, bonjour.
Merci, bonjour à vous.
Vous êtes chef de service de psychologie cognitive et neuropsychologie à l'Université de Mons. C'est donc à vous et au travail de Catherine C, qui est orthophoniste, que nous devons ce nouvel outil. Un outil extrêmement complet et qui, pour la première fois, donc, pourra aussi venir en aide à ces personnes qui vivent dans l'entourage des malades d'Alzheimer. Alors, dans un premier temps, on va peut-être réexpliquer, parce qu'on parle beaucoup de la mémoire, évidemment, quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on en oublie les autres conséquences de ce type de maladie, notamment sur le langage. Alors, quelles sont-elles ces conséquences ?
Oui, donc tout à fait, comme vous le précisez très bien, on a l'habitude d'attribuer à la maladie d'Alzheimer des troubles de la mémoire, ce qui est évidemment exact, mais ça a tout un ensemble de conséquences diverses et variées au niveau cognitif également, et les troubles du langage font partie donc du tableau des difficultés rencontrées par les personnes. Alors pourquoi est-ce que finalement on s'est si peu intéressé au langage comparativement aux recherches portant sur la mémoire? Oui. C'est qu'il y a une grande hétérogénéité chez les patients en termes de difficultés. Et c'est vrai qu'on peut rencontrer des personnes qui finalement, de prime abord, ne semblent pas présenter de troubles particuliers, alors que d'autres, très tôt, vont voir des difficultés de langagières diverses apparaître précocement. Alors c'est vrai que s'il y a une hétérogénéité, il y a malgré tout des grandes tendance dans les déficits, et donc par exemple on sait que l'écriture sera plus précocement touchée, que des composantes telles que les articulations phonologiques, donc des éléments assez limités au niveau du langage, sont particulièrement bien préservés. Et donc, à partir de ces observations générales, on a eu l'idée de créer un outil qui sera spécifiquement adapté aux difficultés rencontrées par les patients à différents stades de la maladie.
Quand on parle d'hétérogénéité, on fait par exemple référence au fait que pour certaines personnes, ce sera des difficultés à trouver les mots. Pour d'autres, ce sera la difficulté de placer le bon mot au bon endroit ou de faire correspondre le bon mot à la bonne idée.
Voilà, effectivement. Donc, c'est effectivement cette hétérogénéité-là qu'on va rencontrer chez les patients. Maintenant, il y a des difficultés qui sont rencontrées par les personnes de manière quasiment systématique. Mmh. Vous avez cité ce qu'on appelle dans le jargon l'anomie, donc la difficulté de récupérer un mot. Bien souvent, les patients se plaignent aussi de ne pas reconnaître les personnes, ou en tout cas d'avoir du mal à retrouver le nom de celles-ci. Et donc, ces différentes dimensions atteintes précocement, on a pu les isoler et envisager donc un outil de prise en charge qui va travailler les différentes fonctions aux différents stades de la maladie.
Et on a dit, chose assez inédite, cet outil va permettre de travailler avec les personnes atteintes d'Alzheimer, mais aussi avec les aidants proches. Et c'est vrai que régulièrement, les aidants proches sont un peu oubliés ou assez peu inclus dans la prise en charge, bien que ce n'est pas systématique. Il y a quand même énormément d'efforts qui sont faits dans cet ordre de choses. Mais ici, véritablement, l'outil sera le même pour l'un comme pour l'autre et on pourra travailler ensemble.
Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que, comme vous le dites, la place de ce qu'on appelle l'aidant, donc la personne proche qui aide la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, est assez variable et pas nécessairement bien intégrée dans le processus de prise en charge, dans le processus thérapeutique. Or, il a été montré dans diverses études que autant l'intervention auprès de la personne est quelque chose d'important, mais également soutenir le proche améliore d'une part la santé de la personne qui vit avec le patient, mais également cette personne se sentant mieux, le patient va lui aussi se trouver dans un état plus confortable, parce que c'est une personne qu'il aime, qu'il apprécie, qui l'entoure. Et donc, intervenir auprès de l'aidant dans le processus thérapeutique paraît maintenant une nécessité. Alors donc c'est vrai qu'il existe, vous l'avez dit, d'autres procédés de ce qu'on appelle la psychoéducation. C'est donc cette aide qu'on a, cette éducation qu'on propose à l'aidant. Mais ici, ce qui est assez neuf au travers de notre outil, c'est que on ne va pas faire de la psychoéducation nécessairement de manière très générale. Il y aura évidemment des informations générales sur la maladie, mais les propos centreront sur la communication, sur les difficultés de langage et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans le quotidien, puisque c'est une batterie qui vise à l'intervention à domicile très précoce, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Et donc aider ces aidants à mieux comprendre les difficultés langagières et communicationnelles de leurs proches et leur donner des petits trucs, des petites astuces, voire quelques exercices à réaliser pour améliorer cette communication, aura un double impact sur elle et sur le proche.
Et on sait que cet impact, effectivement, ne peut être que bénéfique pour ralentir un peu l'évolution de cette maladie ou pouvoir, en tout cas, maintenir et préserver les fonctions qui restent encore présentes chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, on reparlera de cette valise, parce qu'effectivement, c'est un objet concret que l'on peut manipuler. Alors, quand on parle de valise, ce n'est pas une valise de voyage non plus, mais en tout cas, c'est une valise dans laquelle se trouvent, entre autres choses, des manuels d'utilisation, évidemment, des cahiers pédagogiques aussi, mais surtout des photographies, parce qu'on va travailler sur le thème de la photographie, et on verra que ces photographies, elles ont été extrêmement bien utilisées et choisies. On reviendra aussi sur l'intérêt de préserver ce langage, et si on ne le préservait pas, les conséquences que cela pourrait avoir aussi chez l'une et l'autre de ces personnes, le maintien de la communication au sein même d'une famille dont l'une des personnes est atteinte de la maladie d'Alzheimer est un élément essentiel de la prise en charge du malade.
Véronique Thiberguien, question clé, jusqu'à midi sur la première.
On parle de Logatome, un outil qui existe aujourd'hui, qui est mis à disposition des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs aidants proches. Logatome afin de maintenir les fonctions langagières toujours présentes chez les personnes. Alors, on va tout de suite peut-être mettre les choses au point. Est-ce que c'est un outil qui permet de stopper la progression de la dégénérescence en matière de langage, ou est-ce que on va quand même plus être dans l'idée de on maintient une communication quel que soit le stade?
Oui. Donc, déjà, il n'y a pas de prétention d'arrêter la dégénérescence au sens large. Ce n'est pas un outil médical. Donc, la maladie progresse, ça c'est une évidence. Et donc, l'idée ici, c'est de travailler sur les compétences qui sont préservées. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, parce que dans le cadre des prises en charge, bien souvent, on considère qu'il faut travailler des choses que la personne ne sait plus faire. Et donc, on essaye de restimuler des choses difficiles pour la personne. Or, on sait que dans les pathologies telles que celles de la maladie d'Alzheimer, la manière d'aborder la problématique est différente. Enfin, elle doit être différente, à savoir non pas stimuler, ou en tout cas peut stimuler ce qui est difficile pour la personne, mais surtout travailler à ce qui est encore présent, à ce qui est encore efficient, et essayer de préserver le plus longtemps possible. Donc à votre question, est-ce qu'on ralentit le processus de perte langagier ? C'est l'objectif, c'est-à-dire de stimuler un maximum les compétences langagières de la personne et les compétences communicationnelles, parce que ça n'est pas nécessairement oral la communication. Et quand on stimule ces fonctions, eh bien, on constate qu'il y a une réduction du rythme des difficultés au niveau langagière, hein, mais donc les autres fonctions cognitives ne sont pas stimulées à travers l'ogatome, ou peu. Mais donc ici, au niveau langagier, on constate effectivement un ralentissement des difficultés. Alors peut-être quelque chose qui est important de dire concernant l'introduction que vous avez faite, c'est que oui. S'il est vrai que c'est à destination des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs aidants, cet outil est un outil qui n'est pas aisé à manipuler, dans le sens où il faut déjà avoir certaines compétences, avoir des compétences au niveau langagier. Donc la population cible est plutôt une population de professionnels qui vont pouvoir aider les personnes. Alors l'idée, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire de la psychoéducation, d'apprendre finalement à utiliser différents outils et mécanismes qui vont aider la personne et son proche. Et donc ils vont apprendre par eux-mêmes à travailler, oui. Mais initialement, à moins d'être assez versé dans les compétences langagières, sinon il faudra qu'il y ait un intervenant qui vienne proposer les stimulations et qui apprendra alors aux personnes à continuer à travailler ensemble.
Il y a un accompagnement, hein, l'utilisation voilà. À la fois des manuels, des photographies, etc. On n'est pas seul, ça se fait avec un logopède d'ailleurs.
Tout à fait.
Et justement, Laurie Noël, c'est un jeune logopède, il est collaborateur scientifique à l'Université de Mons. Il teste en ce moment même votre outil. Il explique au micro de Lionel Francard comment pratiquement se passe le travail et les avantages de cette valisette logatome.
Alors, moi justement, pour le moment, j'essaie quand même de me baser pas mal sur le discours et également sur tout ce qui est vocabulaire, parce que ça, c'est souvent une plainte qui revient, c'est-à-dire que lorsqu'on ne retrouve pas ces mots, souvent, ça entraîne déjà de l'anxiété, parce qu'on sait déjà qu'on va avoir du mal à retrouver ces mots, et en plus, on veut expliquer quelque chose et on n'arrive pas à se faire comprendre. C'est comme si je vous parlais en anglais et vous ne compreniez pas ce que je veux dire. Donc, c'est très frustrant au niveau de la communication. Et il faut savoir que des thérapies cognitives, au stade léger, pour les troubles lexico-sémantiques, elles ont un effet quand même assez important de maintien du vocabulaire. Donc, à partir de là, pour l'instant, je me base vraiment sur le vocabulaire et aussi la conversation spontanée, parce que ça, c'est la communication en elle-même.
Est-ce que vous utilisez aussi des images ?
Alors, il faut savoir qu'il existe différentes tâches qui permettent de pouvoir travailler le vocabulaire, notamment ce qu'on appelle la dénomination ou la désignation. Donc ça, on se sert justement d'images, de photographies, et la plupart du temps, c'est un peu plus simple pour les patients pour reconnaître les objets. Et justement, dans ce matériel, les images sont quand même franchement bien photographiées. On a le bon format, tous les détails nécessaires à la reconnaissance de l'objet, on a vraiment tous les indices nécessaires pour retrouver le mot en mémoire. Et donc, c'est bien de se baser justement sur ces photographies complètes, parce que non seulement on peut partir du travail du vocabulaire, mais en même temps on peut faire évoquer des souvenirs par rapport à une image, on peut leur demander de définir. Donc, il y a vraiment tout un tas d'adaptations possibles.
Monsieur Noël, en tant que logopède, cet outil quand même, c'est neuf, si ça apporte quelque chose de nouveau dans ce travail ?
Il faut savoir qu'il existe quand même assez bien de matériel, mais pas qui propose une prise en charge de la maladie d'Alzheimer, tant d'un stade léger que d'un stade modéré. Ici, dans une prise en charge à domicile du moins, les thèmes ont quand même été sélectionnés de façon à pouvoir répondre aux besoins des patients, justement qui ont besoin peut-être de savoir quel type d'aliments ils doivent acheter. Donc pour ça, ils doivent connaître le mot. Ça peut être la maison, les différentes pièces. Donc vraiment, les thèmes répondent aux besoins du patient dans le quotidien.
Est-ce que ça permet de retarder les pertes de langage ou est-ce que ça permet carrément même de récupérer parfois du langage, que ce soit verbal ou non-verbal ?
Récupérer du langage, ça devient compliqué. Par contre, le non-verbal, on ne peut pas le récupérer parce que c'est un peu inné chez nous, c'est inconscient. Et ça, justement, la mémoire inconsciente chez les personnes atteintes de démence de type Alzheimer est longtemps préservée dans la maladie. Plus on perd un type de communication, plus les autres vont être omniprésentes. Donc, dès que la communication orale perd un peu de son efficacité, la communication non-verbale va devenir de plus en plus sensible pour ces patients. Mmh. Et c'est pourquoi, généralement, à certains moments, on va voir la personne utiliser beaucoup de gestes, de mimiques, justement. Ils permettent de pallier un peu le souci de communication orale, tout en se faisant comprendre. Et justement, ce matériel prête de cette communication non-verbale et permet de faire ressurgir un peu tous les gestes qui existent pour se faire comprendre. Et ça, à un stade léger comme à un stade modéré, les patients sont quand même sensibles justement à ce type de communication. Donc parfois, ça peut être tout simplement le fait qu'on soit fatigué, qu'on ait besoin de calme, tout comme ça peut être le fait qu'on ait faim, d'où les cris parfois, parce que la personne n'arrive plus à se faire comprendre, et donc les cris vont servir à parfois attirer l'attention justement.
C'était Laurie Noël, logopède, qui teste en ce moment votre outil Logatome, un outil qui, selon lui, permet de maintenir donc la communication le plus longtemps possible entre le malade et ses proches. Un outil aussi où on parle beaucoup de la photographie et de l'image. Il nous disait également par téléphone que le détail dans l'image était extrêmement bien étudié. Alors on verra comment vous avez fait justement pour faire ce choix des images et à quoi elles servent exactement, ces images. Un travail qui est fait donc en collaboration avec un logopède ou un orthophoniste. En tout cas, accompagné avec une thérapie aussi pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et pour les aidants proches, un accompagnement également parce qu'ils ont aussi besoin d'être écoutés eux-mêmes avant de pouvoir écouter leurs patients.
Jusqu'à midi, question clé sur la première.
Et on vous parle de Logatome, un outil pour faciliter le langage chez les patients atteints d'Alzheimer avec le neuropsychologue Laurent Lefebvre qui est avec nous, chef de service en psychologie cognitive et neuropsychologie à l'Université de Mons. C'est d'ailleurs via l'Université de Mons que vous pourrez obtenir toutes les informations concernant cette mallette et cet accompagnement pour ces personnes. Et vous l'obtiendrez sur le site de l'Université de Mons, donc www.umons.ac.be/neuropsychologie, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait, oui.
Merci de me le confirmer, Laurent Lefebvre. On parle avec vous donc de Logatome. On entendait Laurie Noël, le logopède, qui est en train d'utiliser cette mallette. Il nous disait, en dehors du reportage, d'ailleurs, que la précision dans les photographies qui sont utilisées, et il y en a nombreux, 460 photographies en ce qui concerne l'utilisation pour le patient, 33 photographies et des fiches également qui accompagnent pour les dents. Comment vous les avez choisies, ces photographies, et elles servent à quoi ?
Donc, nous sommes partis d'une approche qu'on appelle écologique, c'est-à-dire que la réflexion première était celle de penser à la vie des patients à domicile, hein, puisque c'est l'objectif de la batterie, et donc de questionner des champs thématiques qui sont prégnants pour eux, donc la cuisine, la salle de bain, les sorties, et ainsi de suite. Donc des choses qui rythment leur vie quotidienne. Et on a décidé donc de travailler en sélectionnant uniquement ce type de thématique. Et à partir de là, on a pensé aux différents items les plus représentatifs de ces différents thèmes et avons sélectionné des images qui représentent au mieux la problématique. Et l'idée dans Logatome, c'est ensuite de pouvoir travailler séance par séance un thème particulier. Donc ça peut être les boissons, ça peut être les légumes et les fruits, ça peut être, comme je l'ai dit, une pièce de vie. Et donc on va travailler pendant une semaine avec le patient sur ces éléments sémantiques, donc sur ces concepts, et avec les dents également en parallèle. Et donc ce qui permettra de travailler aussi bien avec le conjoint que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer sur des thèmes qui sont identiques, et ce qui va leur permettre de pouvoir travailler ensemble également quand le thérapeute n'est pas présent chez eux. Et donc on a voulu au travers de Logatome essayer de trouver un outil qui soit quand même très complet et qui réponde aux exigences spécifiques de la population. Mmh. C'est-à-dire que on est face à des personnes qui sont bien souvent âgées, qui ont parfois des problèmes de vue associés, et ainsi de suite. Donc on a été amené à devoir choisir des formats particuliers. Donc des photos un peu plus grandes, des images un petit peu, enfin des couleurs un petit peu plus saillantes, afin d'aider la personne dans son processus de reconnaissance. Mmh. Et donc l'outil a vraiment été conçu, et c'est sur ça que je souhaitais insister, c'est que ça a été vraiment conçu pour travailler avec les malades d'Alzheimer, parce que j'ai déjà des contacts avec d'autres personnes qui me disent oui, mais est-ce que moi je connais quelqu'un qui a un accident vasculaire cérébral, qui a perdu du langage, est-ce que je peux utiliser la mallette? Donc il y a d'autres problématiques langagières où on attend de logatome une possibilité de prise en charge. Évidemment, ce sont différentes stimulations qui sont possibles, donc logatome pourrait servir, mais maintenant ça n'a pas été étudié de cette manière-là, ça n'a pas été pensé de cette manière-là. Donc on pourrait utiliser les outils, mais ça n'a pas été pensé pour les personnes âgées atteintes de pathologies. Et donc, en ce sens-là, c'est ce qui fait un petit peu, comme l'a dit Laurie Noël, l'originalité de l'outil, parce que bien souvent, les thérapeutes utilisent des outils qui ont été pensés pour des enfants ou des personnes adultes qui ont une cérébrolésion et qui travaillent avec les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, mais pas nécessairement avec un outil qui soit adapté. C'est ce à quoi on a voulu répondre au travers de logatome.
Vous avez déjà des retours des aidants proches, par exemple, qui l'utilisent aussi?
Alors, donc, c'est un nouvel outil, puisqu'on a terminé la phase de développement le mois dernier, donc c'est en lancement. Donc, les familles avec lesquelles nous avons travaillé faisaient partie du processus de validation de la batterie. Donc, c'est auprès d'eux qu'on a eu des retours. Globalement, la batterie a été très très bien reçue. Les mesures que l'on a prises montrent d'ailleurs que les proches, après avoir été confrontés à la prise en charge, voient ce qu'on appelle le fardeau, c'est-à-dire le sentiment de pénibilité rencontré par la situation, réduire significativement. Oui. Ah oui. Donc il y a quand même quelque chose qui a été très bien reçu, et globalement ils apprécient tous la qualité, le style d'intervention qui est proposé. Donc on a eu des retours assez positifs pendant cette phase de validation. Maintenant, un retour sur la routine clinique, bien ça on l'aura que dans quelques mois, quand la batterie aura été plus utilisée.
Prenons rendez-vous, Laurent Lefebvre, et on fera
plaisir.
Le point à ce moment-là. En tout cas,
de
l'intérêt même de l'utilité et de ce type d'outil, évidemment, on l'a vu et on l'a ressenti dans les différentes interventions, c'est que une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, déjà vous, quand ça vous arrive, vous ne trouvez pas un mot, vous le cherchez, ça vous énerve, ça vous met dans des situations parfois embarrassantes. Quand l'événement se répète de multiples fois dans la journée, cela provoque angoisse et sensation de ne plus pouvoir communiquer, et le malade atteint d'Alzheimer a tendance du coup à s'isoler complètement. C'est cela qu'il faut aussi éviter, parce que ces premiers signes d'isolement sont aussi des premiers signes d'abandon face à la maladie, et donc avec des outils comme cela, retarder un peu les effets de la maladie et pouvoir rester en communication avec le malade sont des choses absolument essentielles. Laurent Lefebvre, merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Je vous remercie pour
l'invitation. Logatome, donc, sur le site de l'Université de Mons. J'imagine que vous avez fait votre doctorat.
Oui.
Évidemment. Vous serez donc, bien sûr, parmi les gens les plus persuadés qu'un doctorat reste utile.
Tout à fait.
C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Le nombre de doctorants augmente, mais pas forcément les débouchés. C'est parce qu'on n'imagine pas les débouchés, tout simplement. Et on en parle juste après ceci. Et vous rappelez juste avant de vous quitter que Logatome, vous obtenez les informations auprès de l'Université de Mons au département de neuropsychologie, tout simplement pour savoir où trouver cette mallette.
Podcast, la première.